Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est Frédéric qui se trouve dans les studios en compagnie de Mariam Maïga de l'association Nayele Emma et elle est au téléphone. Bonjour Mariam.
Bonjour Fred, bonjour les auditeurs.
Alors Mariam, nous allons faire une émission spéciale Burkina Faso et pour cela je vais donner la parole aux gens qui vont animer cette émission. Mesdames et messieurs, présentez-vous s'il vous plaît.
Alors il y a donc Sylvie de Projet Action 60.
Et Jacqueline de Projet Action 60.
Les inséparables, voilà. En fin de compte, on est toujours ensemble. Voilà. Ouais. Il y a Gérard qui d'habitude est avec nous aussi pour animer Pédagorando qui n'est pas là aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage. Voilà. Donc dans cette émission, dans un premier temps, on va s'attarder sur la situation économique et sociale depuis le coup d'État au Burkina qui a eu lieu en janvier 2022. Suivi d'un second en septembre 2022. Un président de la transition, Ibrahim Traoré, est au pouvoir, mais des élections vont être donc prévues le 2 juillet 2024. Alors le président de la transition, M. Traoré, qui depuis le 30 septembre 2022 a pris la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, c'est un militaire au grade de capitaine âgé de 34 ans et il est considéré comme le plus jeune chef d'État au monde. Alors j'ai une question à poser à Mariam, évidemment. Que représente-t-il pour la jeunesse burkinabé qui compte quand même 67% de la population de moins de 25 ans, qui sont souvent sans formation technique et professionnelle? Est-ce que pour eux, c'est un nouveau souffle?
Pour eux, oui, c'est l'espoir. Ça veut dire qu'à 34 ans, on peut avoir le pouvoir parce que... je ne sais pas si vous voyez nos présidents, que ce soit, parenthèse, l'Europe et puis l'Afrique, ça a été toujours des présidents âgés au pouvoir. Depuis que Macron est arrivé, ben voilà, maintenant nous aussi on vous a battu. Hein. Il est le plus jeune. voilà. Vous disiez, notre président c'est le plus jeune, le plus beau. Ah, maintenant c'est le nôtre.
Ouais. C'est vrai, 34 ans c'est jeune. Voilà.
Voilà. Parce que la jeunesse ne croit pas qu'à 34 ans, à 40 ans, on peut avoir le pouvoir. Parce qu'on les a toujours dit que non, la jeunesse, vous êtes là, vous ne travaillez pas, vous traînez les rues, les maquis. Ben non. Au contraire, maintenant, ils voient que non, à tout âge, on peut avoir le pouvoir, tant qu'on le veut.
Mais par contre, il ne pourra pas être élu deux fois, puisque, a priori, dans les lois qu'ils ont faites, hein, dans cette loi de transition, effectivement, il ne pourra pas se présenter en tant que président de la République pour le 2 juillet 2024. Donc, nous, on a M. Macron qui a été élu deux fois. Lui, il ne pourra pas, a priori.
Non, parce que vous vous rappelez qu'avant, les présidents, que ce soit, toujours, hein, je suis l'avocat du diable, que ce soit l'Europe ou l'Afrique, ils disaient oui, au bout de deux fois, on s'arrête. Oui, après, il y en a qui viennent et qui disent encore oui, ben non, je vais repartir. Maintenant, parce que l'excellence, M. Traoré Aboubakar, déjà, je suis humaniste, hein. Je le félicite parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, il a gardé son salaire de militaire.
Ah, d'accord.
Oui. Et la deuxième des choses, il nous a dit qu'il est venu pour soutenir, relever le défi et mettre le pays en sécurité.
D'accord.
Voilà. Il est là pour notre sécurité, le temps de tout reformuler pour que le futur président soit élu. Mais si le peuple le vote, je ne sais pas, hein, si le peuple le vote par rapport à son excellent travail, mais avec la convention qu'il a faite, ouais.
Donc, avant d'aller plus loin, on va demander un petit peu à Jackie les statistiques un petit peu que tu as sur le Burkina.
Oui, alors quelques statistiques sur faites par justement différents organismes, hein, la Banque mondiale, le Fonds de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, au niveau de la croissance, en 2021, il y a eu une forte reprise de la croissance qui était autour aux alentours de 6,9, pratiquement 7%. Par contre, en 2022, elle a dégringolé à pratiquement 4,5-5%. Donc, et là, en 2023, on est sur une sur une croissance quasi, quasi constante aux alentours des 4-5%.
Alors c'est peut-être parce que peut-être le PIB a baissé, c'est peut-être dû aussi à tout ce qui se passe, que ce soit le Covid ou peut-être aussi, bon, on en parlera tout à l'heure, hein, au niveau de la sécurité du pays.
C'est vrai qu'il y a tout un tas de facteurs, hein. Il y a notamment surtout le problème de l'insécurité, hein, et le problème des investissements aussi. Lié à cette insécurité, là, les investissements étrangers sont un peu en ce moment frileux. Donc,
c'est normal.
Ils sont en train tous de regarder ce qui va en être, hein, donc ils sont un peu dans l'inquiétude. Et il y a surtout au niveau des investissements, aussi la notion de tout ce qu'il y a derrière ces possibilités du Burkina, parce qu'il y a quand même, donc il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème aussi de communication, enfin il y a tout un tas de problèmes logistiques que les investisseurs étrangers attendent d'être réglés. Donc là, après, concernant cette reprise, on voit que cette production, cette reprise, elle est liée aussi surtout à deux facteurs, essentiellement la production d'or avec la mine, hein, avec les mines, et puis aussi sur la, comment dire, tout ce qui est agriculture, mais surtout l'agriculture du coton. Et après, bon, il y a l'autre agriculture qui a une part non négligeable, mais qui est l'agriculture normale, hein, bon, tout ce qui est l'agriculture du quotidien. Mais là, c'est pas de l'agriculture, enfin, au point de vue production, rentabilité pour l'exportation et autres. C'est surtout l'agriculture du coton, mais qui est aussi, malheureusement, en ce moment, on le voit, dépendante aussi du climat et du réchauffement climatique, enfin, de tous les aléas de la nature. Et donc là, c'est aussi une grosse inquiétude. Et concernant l'or, c'est aussi une inquiétude parce que le Burkina est essentiellement le plus gros, enfin, les quatrièmes producteurs d'or en Afrique.
Ah, je croyais qu'il était deuxième, maintenant quatrième.
Quatrième, mais c'est aussi l'inquiétude au niveau. Alors, c'est l'une des plus grosses rentrées d'argent, hein, mais c'est aussi l'une des plus grosses inquiétudes parce que on le voit au niveau sur les marchés, les cours fluctuent énormément. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Il est bien coté, oui, alors, il est même en hausse.
Ça peut fluctuer énormément et ça peut aussi, malheureusement, être aussi d'un point de vue négatif par rapport à tout ce qui devrait être rentré d'argent. Et on voit aussi. Alors, concernant la population, il y a quand même 40% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, le Burkina est 184e pays sur les 191. Donc là, il y a quand même quelque chose à, un effort, quelque chose à faire de ce côté-là pour essayer de revoir aussi au niveau de du programme des Nations Unies pour essayer de combattre un peu cette pauvreté, donc, et puis de voir les différents programmes, et surtout aussi au niveau des écoles. Là, on voit que il y a quand même un gros pourcentage de problèmes d'alphabétisation. 65% des plus de 15 ans ne sont pas alphabétisés.
Combien ?
65%.
65%, c'est énorme. Hein.
C'est énorme. Donc là,
alors c'est peut-être dû parce qu'ils sont éloignés
des grandes villes. Voilà, c'est surtout dû à cet éloignement des grandes villes. Et bon, dans les grandes villes, apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Donc il y a différents programmes, notamment là, l'intermédiaire au niveau du président là, il veut faire pas mal de choses à ce niveau-là.
Oui, parce que dans les villages, il n'y a pas forcément des écoles.
Et c'est ça le gros problème. Donc le problème, ça sera surtout des campagnes.
Et il y a peut-être aussi un problème de langue aussi, parce que je crois qu'il y a beaucoup de langage ethnique aussi, non, Mariam?
Par rapport à l'or?
Non, par rapport à la scolarité, je veux dire, il y a beaucoup de villageois qui ont leur propre langage. Je crois qu'il y a, je ne sais plus combien que tu m'avais dit, il y a plusieurs langues, en fin de compte.
Il y a 66 ethnies.
66.
Oui.
C'est énorme.
Oui, au niveau de la scolarité, en fait, on espère que cette fois-ci, ça va aller, parce que, comme vous dites, dans les villages, déjà, il n'y a pas d'école. Où il y en a, ils sont en dessous les baobabs en train d'étudier, comme voilà Moussa Bourou à peu près. Il y a une école, il y a plus de 120 élèves dans une classe, et ça, c'est pas possible.
Avec
un professeur qui est à peine savoir parler le français, il mélange son doula, son peul, son langage. Voilà, c'est toute une formation. les enseignants ont besoin de matériel et de formation. Voilà.
Oui, mais
accéder à leur travail.
Alors, c'est pareil, je te coupe, excuse-moi, mais quand il y a un enfant qui, à peu près, qui est doué, admettons, dans un village, on va essayer de l'envoyer en ville. Mais s'il ne parle pas la même langue, automatiquement, au niveau de sa scolarité, ça va être très compliqué. Et là-bas, dans les écoles, c'est quelle langue qui est prise? Je ne pense pas que ce soit le français.
Bah si, c'est le français.
C'est le français quand même encore?
Bah ouais, encore.
Pour l'instant.
Non, parce que c'est vrai que...
Le
russe ou le chinois,
oh,
ouais.
Oui, je peux y aller alors.
Ben, le russe. Je vais venir, Jackie, il y a de la place, moi-même je vais à la Russie.
Je peux y aller pour apprendre le russe, donc.
Voilà. Ouais.
Non, oui, parce que, en fin de compte, excuse-moi, mais quand ils font des études supérieures, c'est plus l'anglais qui est pris quand même après, non?
Bah non, c'est le français.
C'est toujours le français, d'accord, ok.
La première langue est toujours le français.
Et toujours le français.
Le premier langue est toujours le français.
Ça, est-ce que ça va continuer?
Non, bah on va... Mais étant donné que depuis 60 ans, on a dit indépendance, le peuple regarde, il ne voit ni de l'indépendance du côté des colombes, il ne voit ni de l'indépendance du côté des hommes qui ont la tête au pouvoir, parce qu'eux, ils sont là avec leurs chevaux et puis leurs 4x4, ils sont tout en haut, ils ne voient pas le peuple. Mmh. Ceux qui nous ont colonisés, bon, eux aussi, ils ne nous voient pas trop, bah, on veut changer. Mmh. Les grands temps, le changement, c'est maintenant. Et puis, moi, de toute façon, je félicite... le travail qu'ils ont pu mener, même maintenant, pourvu que ça continue, que le peuple prend conscience, parce que ce n'est pas les présidents maintenant, c'est le peuple, parce que comme ils veulent mettre tout en ordre, hein, la discipline, donc là, c'est le peuple qui est en train, qui va voir s'il va accepter ou pas. Mais de toute façon, il va être obligé d'accepter. Il faut que tout soit transparent. Vous voyez, avant, on venait en Afrique, il y a une carte de médecin, tu donnes une enveloppe de 100 000 à l'autre, tu vas aller vacciner les enfants au village, hop, on va t'envoyer au village vacciner les enfants. Mais on ne sait pas le produit que tu vas mettre dans la tête des enfants. Mmh. Vous voyez? Maintenant, tout va être écrit noir sur blanc, comme avant, comme les hiéroglyphes. Nous, les Africains, on a écrit noir sur blanc. On va signer tous les documents noir sur blanc. Transparence totale avec le président Aboubacar Traoré.
Ok, ouais, faut espérer que ça fonctionne bien. Alors, moi, je voulais parler aussi de l'urgence, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Jackie, de sécuriser le pays face aux troubles sociaux qu'il y a et aux attaques sur le peuple burkinabé. On peut prendre comme exemple l'enlèvement des 60 femmes. Il y avait des bébés aussi avec ces femmes qui, depuis, ont été retrouvées. Donc là, tout s'est bien passé. Alors, c'était des femmes, effectivement, qui habitaient dans un village et qui étaient sorties du village pour aller chercher de quoi se nourrir. Comment le peuple burkinabé vit-il ces conflits et comment survivre malgré la précarité? Et le peuple est obligé de quitter le plus souvent leurs terres et de se réfugier en ville. Comment vivent-ils tout ceci? Alors j'ai vu qu'effectivement, j'ai lu que Ibrahim Traoré, donc le président, a fait appel à un certain nombre de personnes pour rejoindre justement l'armée pour sécuriser le Burkina.
Tout à fait. Moi-même, j'appelle à la population aussi, à la population à aller rejoindre l'armée pour pouvoir sécuriser notre pays. À la population aussi, à soutenir les militaires, parce que voilà, les kilos qu'ils portent sur le dos, ils marchent 24 heures sur 24 avec du 40-50 degrés pour notre sécurité. Vraiment, j'appelle à la population à soutenir les militaires pour qu'on puisse sécuriser le pays. Parce que vous voyez, de Dori jusqu'à Gorom, on est en train de ramasser les choses pour arriver jusqu'à Ouagadougou. Ça fait à peu près 600-700 kilomètres. Les femmes, les enfants, les animaux, on laisse tout. Ces personnes-là, ces familles se retrouvent en plein Ouagadougou sur le goudron. Ils sont en train de dormir dehors. Ils sont dans la rue. Donc, vraiment, le président Ibrahim Traoré est en train de trouver des solutions, négocier pour que ces populations puissent avoir des terrains. Parce que n'oubliez pas, hein, le peuple est corrompu aussi. Parce que quand certaines ont des 10-15 parcelles qui sont au gouvernement, ils ont des 10-15 parcelles, ils ont construit partout, ils louent leur maison, pendant que les autres sont dans la rue, ça, c'est pas normal. Donc, il y aura du travail au sein du gouvernement même. Toute cette corruption-là, il faut que ça cesse. Il faut que le gouvernement cesse. Et quand un de nos présidents fait une bêtise, Ça ne sert à rien d'amener les Nations Unies et puis de l'envoyer en Europe pour le punir. Non, nous-mêmes, nous sommes capables de faire ça. Donc il va falloir que, vraiment, que ce soit le peuple burkinabé, le peuple d'Afrique noire doit se prendre en main et doit prendre son destin en main. On doit sécuriser le pays, sécuriser ses enfants et ses vieillards qui font des kilomètres. Vous voyez, il y a des
alors,
vieillards
pour justement,
qui sont venus ici, qui ont fait la guerre ici. Je leur dis, mais alors, ta pension, ça peut te permettre de vivre. Ils disent, quelle pension? On ne nous a pas donné les pensions. Donc, je dois vivre sur le dos de mon arrière-petit-fils. Le petit-fils qui est là-bas, qui se cherche aussi, vous voyez, c'est...
Mais, oui, tu vois, Mariam, c'est vrai qu'on a appris ici, effectivement, qu'il y a à peu près, je crois, 200 ou 400 militaires français qui, par le gouvernement, le nouveau gouvernement donc d'Ibrahim Traoré, ont demandé à ce que notre armée française quitte les lieux et ils donnent un mois pour ça. On a vu aussi que notre ambassadeur de France, alors je ne sais pas s'il a été vraiment renvoyé ou pas. Donc voilà, donc on se dit, ah ben nous qui sommes en France, bon, on ne sait pas exactement ce que fait notre gouvernement, on ne sait pas ce que fait non plus le gouvernement Burkina, voilà, on n'est pas dans leurs petits papiers. Mais voilà, c'est vrai que nous en France, on s'inquiète un petit peu parce qu'on se dit, ben les aides qu'on fournissait un petit peu au Burkina, serait-ce comme disait tout à l'heure Jackie au niveau d'envoyer de l'argent pour faire des projets, etc., ça risque effectivement d'être un petit peu bloqué. Jackie, tu voulais insister.
D'autant que là, dans les statistiques, au niveau des investissements, la France est l'un des plus gros investisseurs étrangers. Mm-hmm.
Donc,
est-ce que ça ne va pas non plus faire un peu freiner les investisseurs et aller dans le point de vue négatif par rapport à ces choses, ces actions qui sont en train de se faire?
Peut-être. Effectivement.
Et là, sur le conflit aussi, je regardais, il y avait une statistique aussi qui, donc, concernant le déplacement des populations, par rapport au conflit, le déplacement des populations. Depuis septembre 2022, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui ont été déplacées. Donc ça, c'est aussi le déplacement des populations, c'est quelque chose de vraiment très, très négatif.
Alors justement, ce déplacement, ils ont tendance peut-être à aller plus dans la capitale?
Je disais par rapport à ce que vous dites que la France aide le Burkina, mais c'est du donnant-donnant. Normalement, ça devait être du win-win, parce qu'il y a combien de tonnes d'or qui sortent du Burkina pour vers la France. La chose, en fait, c'est pas, on n'est pas en guerre avec les Français.
Non, parce que moi, j'ai pas d'or. Hein.
Voilà. Nous, on a un problème. C'est que, bah, tu en auras alors.
Merci.
On a un problème avec la machine politique.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors bon, si, parce que bon, c'est la part des États, c'est justement la problématique des États étrangers qui sont là. Hein. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, si d'un côté la France, on restreint voilà, de ce côté-là, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres États qui risquent de prendre la place?
Oui, bon, on pensait à la Russie, on pensait à la Chine, voilà, par donc, exemple. Mais les Chinois, ils sont sur place depuis pas mal de temps déjà.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'indépendance?
Avec la France, on n'a pas eu du win-win, hein. Depuis 60 ans, on n'a pas eu du win-win.
Oui,
hein.
Mais est-ce qu'il n'y a pas...
Parce que si les Chinois viennent, ils nous proposent vraiment du win-win, on va le prendre. Parce qu'avec la France, on n'a pas eu ce win-win là. Sur le seuil de pauvreté.
Ouais.
C'est quoi l'aide là? Nous, on veut se passer de l'aide. On veut s'aider nous-mêmes. Et la France vient, dit bon, voilà, vous nous donnez on rachète ces minerais d'or et c'est vos populations qui vont venir travailler. Mais non, c'est tout à fait le contraire. C'est d'autres populations qui viennent encore travailler.
Bah, souvent, oui.
Et puis qui s'en va.
Moi, souvent.
J'ai rien contre la France. Mais notre gouvernement aussi a sa faute. Parce qu'il y a des papiers qui ne sont pas signés. Il n'y a rien de clair dedans. Donc, c'est la population qui prend tout dans sa
tête. Oui, parce que.
On ne veut plus.
Mais les États étrangers, ils risquent de faire de même. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai.
On verra à ce moment-là, quand le moment sera venu. Mais maintenant, depuis 60 ans avec la France, on ne peut plus. Quoi.
Oui, alors attends, Mariam, parce qu'on nous dit aussi, oui, effectivement, on va au Burkina plus ou moins pour se servir. J'espère que ce n'est pas quand même le cas. Mais c'est vrai que la plupart des minerais qui sont exploités, souvent, effectivement, tu as raison, ce n'est pas les Burkinabés qui font le travail, ce sont souvent les étrangers. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais demander à Fred de lancer la
Alors,
suite.
On va écouter Salif Kienyou, qui a participé à la finale de The Voice Kids Afrique francophone.
Jamaya Mandi Araye
C'était Salif Kinou.
Très jolie voix.
Vous écoutez une émission spéciale Burkina Faso, présentée par l'association Projet Action 60 et par téléphone avec Marianne Maïga de l'association Nayel Emma.
Mariam, on va passer maintenant à autre chose. Hein. Peux-tu nous donner des nouvelles de ton projet dans la région de Moussa-Bougou? Celui-ci se composera en plusieurs étapes et sur plusieurs années. Alors, l'objectif étant d'apporter une certaine indépendance alimentaire et économique aux villageois et villageoises. Quelle sera pour toi la première étape de ce projet?
Tout d'abord, merci. Nous sommes à la recherche de fonds pour la construction d'un château d'eau. Ce château d'eau va permettre au village le reboisement, parce qu'il n'y a pas aussi assez d'eau pour l'homme. Hein. Le reboisement, dans le domaine du reboisement, nous sommes déjà en contact avec les gardes forestiers. Nous allons rechercher les arbres ancestraux, et puis les replanter, reboiser. En fait, Moussa-Bougou. Moussa-Bougou est un village de 10 000 habitants. C'est trois villages, quoi. Trois petits villages de 10 000 habitants. Il manque de l'eau, c'est à la pointe du Mali. Donc, il n'y a pas l'eau qui arrive de ce côté-là. C'est vraiment le désert total. Et donc, la deuxième partie de ce château d'eau, à quoi ça va permettre l'élevage? L'élevage va permettre déjà, une, comme c'est des cultivateurs, de traîner et de cultiver la terre. Parce que, comme vous avez vu, j'avais envoyé des vidéos où ils sont en train de ramasser le coton à main nue, de plier le coton à main nue. Donc l'élevage va permettre de travailler avec les ânes, les chevaux, mais aussi l'élevage va nous permettre de participer à l'Institut technologique avec l'aide de Abdouma Diallo qui est en Côte d'Ivoire, qui va se déplacer pour pouvoir venir suivre ces travaux à Moussa-Bougou de l'Institut technologique.
Alors l'Institut technologique, c'est pas pour maintenant.
Non, c'est pas pour maintenant. Il faut mettre l'eau, il faut stabiliser la terre, retravailler la terre, le permaculture, redonner des jardins pour les populations, parce qu'ils cultivent, mais il n'y a pas beaucoup d'herbes pour faire les sauces et tout ça. Parce que, comme vous savez, chez nous, les plantes sont médicinaux. Donc, il va falloir le domaine de permaculture avec Mars et puis d'autres, travailler cette terre-là, refleurir la terre pour que les aliments puissent pousser, parce que la terre est en train de péter. J'avais envoyé des vidéos, la terre est en train de péter. Il n'y a plus d'eau, il y avait de l'eau dans les rivières pour les animaux, c'est sec.
C'est la sécheresse. Mais par contre, c'est pareil, tu parles d'élevage, etc., mais d'ânes, chevaux, etc., mais il va falloir les nourrir, donc je pense qu'il va falloir aussi planter aussi pour les nourrir, ces animaux.
Tout à fait. C'est dans le domaine du reboisement et du permaculture qui va permettre de les nourrir, parce que les villageois, déjà, ils cultivent. Il y a des patates douces, il y a du coton, il y a de l'arachide, il y a de l'anacade. Voilà.
C'est quoi de l'anacade?
L'anacade, c'est comment ça s'appelle? Graines d'ajou, là, anjou. Vous voyez, l'apéritif, les graines.
Oui. Voilà. Des noix, quoi.
Des noix. Et là, voilà, ils cultivent pas mal de choses, mais voilà, ils ont eu, ils ont eu des puits, mais malheureusement, l'eau a du mal à arriver, et puis voilà, pour l'homme et puis pour la nature, c'est un peu compliqué. Donc voilà, nous allons mettre, ce château d'eau va permettre, déjà, vous voyez, il y a 7 villages, 7 régions qui vont venir s'accrocher à Moussa-Bougou avec le château d'eau pour pouvoir déjà travailler sur le reboisement, l'élevage et puis le permaculture. Et ça va permettre de créer des emplois. L'objectif, toujours de créer des emplois. Il y en a qui vont attacher l'eau pour pouvoir aller le vendre de l'autre côté. Il y en a, l'eau va permettre à la nature de se refleurir avec ce qu'on va cueillir. On va pouvoir le vendre aussi pour pouvoir encore alimenter. Parce que ce qui est important avec le château d'eau, là, c'est que les villages de Moussa-Bougou sont extraordinaires. D'une part, ils nous ont offert du terrain. La deuxième départ, ils participent à la construction du château d'eau, en faisant encore une tontine. Vous voyez ? Ils ont créé une tontine pour le démarrage du château d'eau.
Voilà. D'accord. Et donc, ce château d'eau, est-ce que déjà il y a des plans d'effectuer ? Est-ce que déjà tu as trouvé peut-être un partenaire pour la construction de ce château d'eau ? Est-ce qu'il y a des personnes près de des villages Moussa Bougou qui peuvent effectivement construire ce château?
En fait, comme je disais, ce château d'eau, c'est la suite de l'Institut technologique. Hein. Mais ce château d'eau-là, en fait, il y aura un chaudronnier qui va venir sur place et qui va former, qui va travailler, qui va construire les châteaux d'eau. En même temps, ce sera une formation pour la jeunesse de Moussa Bougou. N'oubliez pas que la jeunesse de Moussa Bougou, ils sont à 70%. Il y a 5% d'enfants, 5% de vieillards, tout le reste, ce sont là-bas. Ce sont la jeunesse et qui sont sans emploi. Ce sont que des agriculteurs. Donc, ça va leur permettre, d'une part, de se former et de deux part aussi de pouvoir avoir un emploi, parce que le chaudronnier, il n'y a pas que le château d'eau qu'on va avoir besoin à Moussa Bougou comme métal. Donc il y aura les lits pour l'Institut technologique, il y aura les entourages pour les animaux. Donc il va former les jeunes, il va rester sur place pendant une ou deux années, il va former les jeunes en même temps vers un emploi.
Mais là, est-ce que tu as déjà commencé, justement, parce que ce château d'eau, s'il arrive dans 2 ans, est-ce qu'il y a déjà des formations, justement, pour certains jeunes, déjà, mises en place ou pas ?
Dans le cadre du château d'eau ?
Dans le cadre du château d'eau, mais est-ce que tu as déjà commencé, toi, avec des partenaires locaux, à voir si on pouvait former des jeunes ?
Oui, il y a comment la société Watt. Voilà, qui est dans le domaine de la construction, bon, qui crée des châteaux d'eau, qui font des routes et tout. Et ils sont là, ils sont prêts, ils ont déjà pris des jeunes en formation.
Ils en ont pris combien en formation à peu près ?
Il y en a trois.
D'accord, oui. Il y a d'autres formations de prévues, justement, parce que les formations ne se font pas en un mois ou en 6 mois, mais c'est vrai que ça serait intéressant que les jeunes commencent déjà à se former pour être prêts vraiment dans 2 ans, ouais, par exemple.
Et créer une sorte de formation.
Tout à fait, les formations, c'est sur 1 an ou 2 ans.
Oui.
Donc, il y a des jeunes qui sont partis dans le domaine de l'électromécanique, puisque l'Institut technologique, nous allons créer les circuits, nous allons créer le karting. Il y en a qui sont partis dans le domaine de l'électromécanique. Il y en a qui sont partis dans le domaine de la pâtisserie. D'ailleurs, n'oublions pas de remercier le chef qui est à Ouaradougou, je ne sais plus son nom malheureusement, qui a pris des jeunes en stage. Il y en a dans le domaine de la permaculture. Il y a des associations partenaires qui ont pris des jeunes en formation. Mais aussi auprès des instituts, auprès des établissements scolaires, je suis en train de voir pour pouvoir former des jeunes aussi dans le domaine de, comment ça s'appelle, être professeur ou être...
dans l'éducation, quoi.
Voilà, dans l'éducation et dans la médiation, il est important. Parce que comme nous ne parlons pas les mêmes langages, il va falloir qu'on communique ensemble. Donc cette communication, elle va passer par la médiation. L'Institut technologique, les membres de l'association vont être obligés, c'est une obligation, de... apprendre le Senoufo, parce qu'on est sur la terre des Senoufo. On remercie d'ailleurs Zakadia, Traoré et puis toute la population. Nous devons communiquer avec le peuple Senoufo. Donc nous allons apprendre le Senoufo.
Alors là, c'est pas.
Il y a à peu près 50 jeunes qui sont partis en formation dans divers domaines avec nos partenaires au Burkina Faso.
D'accord. Parce que là, je suppose que dans les villages de Moussa Bougou, ces jeunes qui sont sans formation, n'ont peut-être pas été scolarisés ou très peu, est-ce que là, tu vas faire quelque chose, peut-être une formation scolaire, peut-être une remise à niveau, peut-être, pour ces jeunes ?
Oui, tout à fait. En fait, il y aura il y aura l'alphabétisation. Mais il y aura un suivi de formation avec les jeunes. Comme j'ai dit, on va déposer un conteneur qu'on va appeler l'Institut technologique préparatoire. Nous allons former ces jeunes-là pendant 1 à 2 ans avant que l'Institut technologique construise. Pas que dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, mais aussi dans le domaine de la science politique, dans le domaine de l'ingénierie, dans différents domaines, ils seront formés avec des personnes formées.
D'accord. Et, voilà. Et au niveau de cet institut technologique, tu le vois dans combien de temps ? Dans 6 ans, peut-être ? Déjà, je pense qu'il faut déjà que le château d'eau soit bien démarré pour effectivement faire de la permaculture, reboiser, déjà mettre tout ça en route. Et puis, peut-être que les villageois, effectivement, s'ils ont des terres, ils pourront aussi peut-être aller vendre au marché ce qu'ils ont récolté. Voilà. Et donc, tout ça, dans le temps, mais ça va peut-être être la conclusion de l'émission, comment assurer la pérennisation d'un tel projet, parce que tu n'es pas sur place, je sais que tu dois y retourner, et comment s'organiser avec les partenaires burkinabés? Bon, je suppose quand même que tu as déjà pas mal de contacts, et justement, je voulais savoir aussi, les chefs de village, les entrepreneurs, les villageois, comment ils accueillent ce projet? Est-ce qu'ils sont tous derrière toi? Je suppose que oui.
D'une part, ce n'est pas dans 6 ans. Times, bon, on n'a pas le temps. L'Institut technologique, dans 2026, ça doit être ouvert.
Donc, dans 4 ans, parce qu'on début 2000, voilà, 3-4 ans, voilà, disons-nous.
Voilà. Les chefs de village sont honorés. Déjà, le chef de Moussa Bourou, et puis, Fran, n'oubliez pas, hein, mon chef, Emma Fadoura II. Merci beaucoup. Les chefs des villages, que ce soit tout le Burkina, c'est tout le Burkina qui est mobilisé autour de Moussa Bourou pour la création de ce projet. Parce que nous allons former des jeunes dans l'Institut technologique, et puis ces jeunes-là, on va les accompagner dans leur village pour pouvoir mettre des projets similaires en place.
D'accord. Alors, l'Institut technologique, est-ce que tu as quelqu'un qui est derrière toi? Est-ce que les formations vont se faire par Internet? Ça peut très bien se faire par Internet, par des MOOC, comme on dit maintenant. Ou est-ce que ce seront des professeurs habilités, quoi, qui se dirigeront vers le Burkina pour apprendre directement face à face avec les élèves?
Directement avec les élèves. Il est important qu'il y ait un contact humain. Parce que comme vous savez, nous, avec notre soleil, on prend le temps de comprendre le temps. Là, on n'a plus le temps. Il faut que ça se passe directement. Les élèves, les étudiants, exemple de l'UTC ou de projet Action 60 de RVM vont se déplacer à Moussa Bourou. Donner les cours aux enfants, ça sera sur place. Ouais. Et l'Institut technologique, il y a déjà des instituts qui seront partants pour pouvoir accompagner ce projet-là. Parce que ceux qui ont deuxième ou troisième thèse vont pouvoir aller étudier là-bas, vont pouvoir aller former les jeunes là-bas pour pouvoir avoir leur maîtrise ou leur thèse aussi. Mais aussi, n'oublions pas la population du Burkina Faso et d'Afrique, les institutions d'Afrique aussi, nous allons contacter. J'ai déjà mis en contact plusieurs pays africains pour que ces jeunes aussi qui sortent des universités des facs puissent venir au Burkina Faso, échanger, travailler avec les populations.
D'accord. Et alors, je suis assez curieuse, mais ces jeunes qui suivent des études en université, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais ils se dirigent plutôt vers quel domaine ?
Maintenant, le domaine en Afrique, c'est plutôt l'énergie renouvelable et puis la technologie.
D'accord.
Voilà. Souvent, le fils du cultivateur, il ne veut plus cultiver, il veut construire une voiture. Le fils de menuisier, lui, il va pas vouloir faire de la menuiserie, il va vouloir devenir aviateur. Voilà.
C'est ces
villages-là que nous mobilisons, que nous demandons vraiment un accompagnement. Parce que ces villages-là, ils n'ont pas les moyens. Parce que l'Institut technologique, c'est privé, hein, c'est cher. Hein.
Voilà, c'est ça que je voulais poser comme question. Aussi. C'est les financements. Je veux dire, on sait très bien que le peuple burkinabé n'est pas tellement riche. Mais c'est vrai, s'il faut envoyer l'enfant en université, ça coûte. Est-ce que justement, il y a une éducation nationale au Burkina qui est gratuite, peut-être au moins jusqu'au collège, ou pas du tout?
Non, mais l'école n'est pas gratuite. Hein. L'école n'est pas gratuite pour personne. C'est des conneries. D'un côté, pour l'Institut technologique, comme vous dites que voilà, ils n'ont pas les moyens, c'est pour cela que nous allons être près des populations. On va les aider à cultiver, à produire.
Pour pouvoir
et c'est
vendre.
Ces productions qui vont permettre, exemple, je vais dire Banfora, voilà, il y a un groupe qui va créer, ils vont créer des balafons, ils vont créer des moringas, c'est un exemple. Hein. Et c'est cet argent, il va être en commun, j'ai dit l'unité absolue. Et c'est cet argent qui va permettre à des régions d'envoyer 2-3 enfants à l'Institut technologique. Mmh. Donc nous allons les accompagner pour vendre leurs produits afin d'accompagner, afin que les enfants puissent être inscrits à l'Institut technologique. Parce que dans le cadre de l'Institut technologique, ils vont apprendre pour pouvoir aller créer des industries dans leur village.
D'accord. Alors par contre, pareil, je veux dire, tout à l'heure tu disais effectivement, ça serait bien que les jeunes qui suivent des études en université aillent peut-être dans d'autres pays africains. Est-ce que il y aurait une possibilité peut-être aussi que ces universités, admettons du Maroc ou de l'Algérie, de la Tunisie, Afrique du Sud, puissent intervenir aussi dans l'université technologique que tu veux créer, mais peut-être les déplacements sont peut-être compliqués. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de formation aussi par Internet, peut-être.
Non, les déplacements ne sont pas compliqués. Par Internet, on ne comprend rien. Et puis, vous savez que chez nous, l'Internet est cher. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens de se connecter. Ah. En fait, il va falloir mettre des... Surtout à Moussambourou, il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a que les populations avec l'air du bétail et puis la terre. Donc, on va créer des... Ben, comme il y aura un conteneur qui va être déposé, ça sera des classes...
Les classes.
Voilà, ça sera une classe qui sera créée. C'est pas une université, hein, c'est un institut.
D'accord, ok.
Il y aura rien à voir avec une université parce qu'on n'a pas les moyens. L'université, on n'a pas les moyens. Nous allons prendre l'enfant de 9 ans jusqu'à ses 25 ans, accompagner l'enfant de 9 ans jusqu'à ses 25 ans. Avant qu'il rentre dans l'institut technologique, ben, il y aura une école préparatoire. Et pour le déplacement... Il y a des solutions. Non, tout le monde se déplace. Mmh. Les avions, ce n'est pas les djihad quand même. Il y a des bus qui partent partout.
C'est vrai, c'est ça, oui.
Il y a des bus qui partent au Mali, il y a des bus qui partent au Maroc, il y a des bus. Non, il faut que les jeunes se déplacent. Il faut qu'il y ait un contact humain.
Là, on va donc stopper l'émission. On en refera une autre. Hein. C'était fort intéressant de savoir un petit peu où en était le Burkina, où en était aussi ton projet, Mariam. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au départ, Mariam, toi, tu as créé cette association justement pour faire connaître l'albinisme un peu partout, hein, voilà.
C'est ça.
Jackie, je vais dire à Jackie de dire un petit mot.
C'est vrai que c'est un projet vraiment intéressant et qui mérite d'être soutenu. Maintenant, bah, on va le suivre et voir, j'espère, voir l'évolution et puis une évolution positive.
Et puis, bah, ça serait bien aussi peut-être que dans le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration de Monsieur Ibrahim Traoré, bah, ça serait bien de construire des écoles même dans les villages. Et là, on va dire, non, mais de quoi elle se mêle, Mariam, tu as le droit.
Il a déjà prévu. Il a dit discipline,
super.
Détermination. Merci à vous tous. Et puis, j'appelle à Obuntu, Château d'eau, pour 10 000 personnes à Moussambourou. Merci, RVM. Merci, Projet Action 60.
De rien, Mariam.
Merci aux auditeurs et merci au peuple du monde.
Merci.
Voilà. Merci. Au revoir.
Voilà, c'était une émission spéciale Burkina Faso. Nous étions par téléphone avec Mariam Maïga de l'association Nayel Emma. Cette émission a été réalisée par l'association Projet Action 60, représentée par Sylvie et Jackie. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Grain de sel. Une émission de la rédaction. Grain de sel.